tout de suite sur Radio B avec Résonance. Alain Goudard, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Je vous propose de partager avec nous une nouvelle émission de notre série Invention à deux voix. Invention à deux voix, c'est une série d'entretiens avec des personnalités du monde artistique, littéraire, philosophique, sociologique ou politique. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour ce nouvel entretien d'Invention à deux voix, Laura Tereda Martin, chanteuse, performeuse, vocaliste, et Bartolomé Ferrando, performeur et poète visuel. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Bartolomé.
Bonjour.
Bonjour Laura Tereda.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Alors très heureux de vous accueillir Bartolomé Ferrando. Vous êtes arrivé hier soir à Bourg-en-Bresse. Je tiens à préciser que cette émission n'est pas en direct, mais qu'elle est enregistrée. Elle a été enregistrée le 29 mars dernier, au cœur de la cité, puisque nous sommes au Temps des Noyaux, donc dans ce bar associatif, rue Docteur Hébrard, qui lui aussi essaye de promouvoir la poésie, le slam, en tout cas les arts du dire et de la parole. Donc, d'autant plus heureux de vous accueillir et de réaliser cette émission Bartolomé Ferrando dans ce lieu qu'est le Temps des Noyaux. Alors effectivement, vous êtes arrivé hier soir d'Espagne, puisque c'est là que vous vivez, à Valencia précisément, et puis que depuis plus de 30 ans maintenant, vous aventurez dans le champ de la poésie sonore et expérimentale. Alors on peut dire que vous êtes un artiste aussi de la performance, et que cette démarche, elle vous invite à voyager un petit peu dans le monde entier, hein, puisqu'on pourrait parler de l'Europe bien évidemment, mais aussi du Japon, de la Corée, de Singapour, du Mexique aussi, d'Israël, du Vietnam, de l'Équateur. Donc une activité très dense. Et du coup, pour introduire aussi un petit peu notre propos autour de la poésie, notamment un peu de la poésie sonore et de la poésie visuelle, je voulais juste prendre des propos, vos propos, par lesquels vous évoquiez qu'est-ce que c'était un petit peu pour vous, cette démarche poétique. Alors vous direz si c'est toujours conforme pour vous, et vous disiez ceci: mes interventions interrogent le poétique par et dans le gestuel. Mes pièces sont souvent courtes, simples, élémentaires, réalisées avec un minimum de moyens et non dénuées d'ironie, tout en cherchant à montrer l'essence pure de l'action. Une façon pour mieux toucher la sensibilité de l'autre. Fin de citation. Est-ce que vous êtes toujours en accord avec ces propos?
Oui, complètement. J'emploie dans les performances les gestes comme un élément parallèle à la voix. Et bon, ça m'intéresse beaucoup.
Cette relation du son, du geste, de la voix,
oui,
du mot.
Du son, du geste, oui. Aujourd'hui, il y aura une pièce strictement qui montre strictement ce rapport entre le geste et la voix. Et la voix. Et aussi, et cette défense de la simplicité, je pense, c'est quelque chose qui m'a touché toujours. Et c'est parce que j'étais aussi touché par des pièces, par des interventions.
Oui.
Et normalement, très, très simple et très, et pour être simple, elles étaient assez fortes en même temps. Alors, cette recherche de la simplicité mais était aussi influencé par le poète catalan Brossa, qui travaillait, disons, sur la réduction au minimum de contraste entre deux éléments, influencé en même temps par Reverdy ou par Marcel Duchamp, parce que lui, il était, dans ses écrits, il parlait de l'influence Reverdy. Et pour moi, c'est aussi très, très important, surtout un rapport pas seulement à la performance, mais aussi à la poésie visuelle, la poésie objet.
Et du coup, Bartolomé Ferrando, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes intéressé justement aux mots, à tout ce travail autour de la poésie? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous de se dire, tiens, à un moment donné, c'est peut-être à travers cette forme-là d'expression que vous sembliez pouvoir dire ce que vous aviez à dire au travers de cette forme?
Oui, j'avais 21 ans, j'étudiais à Barcelone, et à ce moment-là, dans les années 73, 73, il y a eu une expo au Goethe Institut de la concrète et poésie. Concrète et poésie. Je connaissais pas du tout ce terme-là, à ce moment-là, et j'étais vraiment étonné, disons, par les possibilités qu'il y avait dans la poésie concrète de cette recherche entre le mot coupé, la densité du langage, la relation avec l'espace vide et l'architecture des lettres, disons, qui plus ou moins défonçait un peu la poésie concrète dans le monde. J'ai vu des travaux formidables. Je me rappelle, c'est pas Ferdinand Crivet, par exemple, mais même aussi les pièces de Brossa, ou bon, pas mal de pièces aussi de Neugandres, et bon, des pièces qui m'ont touché beaucoup et qui m'ont influencé, disons, de manière décisive à essayer de chercher dans ces moyens-là les possibilités qu'il y avait. Parce que là, c'était la poésie concrète, pas la poésie visuelle.
On pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Là, c'est une première approche de ce que est pour vous qui est toute une autre, encore une manière d'envisager le mode poétique. Mais effectivement, donc c'est toute cette découverte au Goethe-Institut de cette poétique allemande, de cette manière aussi, vous évoquez, de couper les mots, qui petit à petit, là, vous avez, c'est un choc aussi un petit peu émotionnel. Qui aussi vous a emprunt finalement et peut-être
Oui, c'était vraiment un choc et là j'essayais de trouver de personnages qui travaillaient dans la poésie concrète, mais à ce moment-là plus dans la poésie visuelle, c'est-à-dire dans ces rapports entre le mot et l'image. Qui existait un peu partout. C'est pas ici en France, on pourrait parler de Julien Blaine, par exemple, qui était un personnage connu, ou de Pierre Garnier. Pierre Garnier qui travaillait un peu le mot dissous dans l'espace, non, cette espèce de poésie spatialiste, spatialiste. Et aussi de je sais pas d'autres gens là, Jiří Kolář par exemple que j'admirais beaucoup en Tchécoslovaquie, ou des gens de l'Italie, surtout de poètes la poésie visiva italiana comme Eugenio Mizzini, Lamberto Pignotti, des gens comme ça. Bon, que j'ai eu l'occasion de connaître et étudier, essayer de développer, surtout dans cette ligne de la simplicité.
Ça veut dire que votre formation, au départ, elle était aussi littéraire, ou elle était plus tournée vers des arts plastiques, ou au départ, votre formation à vous d'entrer dans la pratique artistique?
Après les études de Barcelone, je suis retourné à Valence, j'ai commencé notre carrière de lettres. Et à ce moment-là, on avait commencé avec quelques amis une petite revue qui s'appelle Testo Poetico, dans laquelle on mélangeait la poésie visuelle et concrète avec la poésie post-poétique, c'est-à-dire plus influencée par Fluxus, qu'on était vraiment touché aussi par Fluxus à ce moment-là. Et aussi maintenant.
Oui, ça, c'est vraiment un fluxus, un mouvement, enfin, qui a marqué énormément beaucoup de générations dans les manières de l'action, de la poésie, de la mise en forme, et qui influence effectivement encore beaucoup, encore jusqu'à aujourd'hui.
C'est ça. De notre part, l'influence des fluxus, on pouvait le voir dans la revue Testo Poetico.
Oui.
Par des propos poétiques, c'est-à-dire on faisait pas, on proposait à l'autre de faire quelque chose. Parfois impossible à faire, mais bon.
C'est ça.
Parfois impossible, parfois, mais c'était toujours très simple et très court. Parfois c'était, on essayait de proposer quelque chose.
Et que l'autre soit en réaction immédiate par rapport à cette proposition.
Oui, et que l'autre, par exemple, il y avait une proposte qui disait prière, je traduis maintenant, de pas donner une opinion sur moi. Signer les poèmes. Non.
Déjà,
comme ça.
Voilà.
Quelque chose comme ça.
On voit déjà voilà le contexte.
on a parlé pas de l'ironie ou de l'humour.
On évoquait l'humour aussi que ça engage aussi à un moment donné. Oui. On n'est que pas dans quelque chose de sérieux, il peut y avoir de la réflexion très profonde bien justement qui vient interpeller aussi.
Oui.
Mais il y a aussi cette force de l'ironie, cette force de l'humour qui accompagne aussi cette réflexion et quelquefois cette interpellation aussi de ce que peut être la poésie ou quelque part aussi de la littérature.
Oui. Et en même temps, pendant qu'on commençait Testo Poetico dans les années 60-77, j'ai commencé à faire des propos dans la rue, un peu influencé par Fluxus, par le situationnisme aussi.
Bien sûr.
Par exemple, il avait une pièce qui disait « J'ai mis dans la rue toutes des lettres sur un fil qui disait « Vous passez au-dessous de quelque chose. »
Ouais.
Voilà. Et bon, le mot regarder,
c'est ça.
Au-dessous de quelque chose. Est passé. Hein. Mais finalement, il y avait quelqu'un qui a décidé de pas passer au-dessous de quelque chose. C'est la ligne. Bon, alors voilà. À ce moment-là, c'était fini.
Hein. C'était fini, bien sûr.
C'était fini.
Du coup, on évoquait déjà bien toutes ces expériences-là. Vous intervenez seul, mais aussi vous travaillez avec différents groupes. Ça vous arrive aussi d'être associé à d'autres artistes. Je cite simplement, peut-être, est-ce que c'est toujours d'actualité aussi pour vous, Flatus Vocis Trio, par exemple, ou le Thaler de Musica Mundana aussi.
Oui.
Et à la fois, il y a une démarche seule, de performance seule, et puis souvent vous êtes associé à d'autres artistes dans ce travail de performance.
Oui, dans Flatus Vocis, c'était avec Llorenç Barber et Fatima Miranda, on a fait un trio de voix avec des textes plus il y avait la sémantique, il y avait pas seulement la coupure de mots. Moi, j'ai travaillé plus vers les mots coupés.
Oui.
Mais Llorenç et Fatima étaient plus pour disons la phrase entière avec un certain sens, et on mélangeait tout ça. Et c'était aussi ironique, et pas toujours, mais oui, mais on a bien travaillé ensemble, et tous les trois, parfois on était 13 heures dans une journée, complètement.
Et c'est énorme.
On répétait. Et je me rappelle une fois, mais que les gens disent, mais vous improvisez. Non, je dis non, j'improvise pas. C'est tout écrit. Là,
tout est précis.
C'est tout écrit.
Et voilà, c'est ça. Donc on prend conscience de l'enjeu de tout le travail que cela nécessite, justement, même si on a l'impression que c'est improvisé, mais on imagine bien le nombre d'heures de travail.
Oui, justement.
Qui sont là pour rendre aussi cette sensation finalement une facilité, d'une fluidité qui fait qu'effectivement on a l'impression que c'est complètement improvisé.
Oui, et pour Thaler de Musica Mundana, on travaillait surtout avec des papiers. On faisait des musiques avec des papiers.
Ah, ça c'est.
Avec différents papiers. Et des sonorités vraiment différente.
Et là, à partir de pièces écrites, là aussi, dans ce cas de ce travail sur le papier, ou du travail improvisé
Il avait un travail improvisé. Disons, il avait une structure à la base. C'est-à-dire, on commençait par là, on continuait par l'autre. Mais c'était aussi, il avait une liberté de faire dans chaque partie, on avait une liberté d'improviser avec les papiers différents. Oui.
Alors du coup, peut-être, Bartolomé Ferrando, on pourrait aussi essayer de... Là, on voit le contexte, donc d'essayer de préciser ensemble, peut-être sur ce qu'on entend un peu comme poésie visuelle. Nos auditeurs connaissent le terme poétique, poésie action peut-être pour certains, poésie visuelle encore un autre. Et peut-être juste pour introduire peut-être ce moment sur lequel nous pourrons ensemble évoquer qu'est-ce que peut-être la poésie visuelle. Je voulais vous proposer une citation de Vincent Foucault, qui est agrégé d'espagnol et qui s'intéresse au département d'études méditerranéennes, ibériques et ibéro-américaines à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux. Et justement, il travaille aussi sur cette notion un peu de poésie visuelle. Alors je voulais juste vous proposer, et puis comme ça nous pouvons échanger aussi un peu à partir de là, de prendre appui sur quelques-uns de ses propos, où il introduit un petit peu cette notion de la poésie visuelle. Déjà, il nous indique aussi que c'est quelque chose qui, et là on le sentait dans ce que vous expliquiez tout à l'heure, que c'est à la fin des années 50 que aussi cette poésie, voilà, cette association de l'idée d'associer l'image et le mot et la poésie commence à se faire. La poésie visuelle que certains critiques des fois considèrent tantôt comme un mouvement, tantôt comme un genre, tantôt comme une véritable discipline artistique à part entière. Et dès son apparition, la poésie visuelle, finalement, on s'aperçoit qu'elle est présente dans le monde entier. Ça, c'est le premier constat, en tout cas, que Vincent Foucault pose. Il indique par ailleurs aussi, alors que elle apparaît chez vous en Espagne, en tout cas des éléments attestent de cette présence en 1964 avec un poète visuel, mais j'imagine que pour vous il vous est familier, Enrique Uribe Valville-Vialso, je prononce peut-être pas vraiment bien la fin, mais qui lui était donc quelqu'un d'important aussi donc en Espagne par rapport à ce travail-là. Et puis après il dénote aussi que suivant les pays elle a des dénominations différentes. Si elle devient par exemple au Brésil le créationnisme par exemple, ou une partie en France, on l'appelle aussi le signalisme, par exemple, le spatialisme aux États-Unis. Et elle est donc une forme de poésie expérimentale et se trouve par conséquent intimement liée à d'autres formes de poésie contemporaine, comme la poésie sonore, la polypoésie, la typopoésie, la poésie concrète, la cyberpoésie, etc., etc. Pas mal liée aux formes d'art néo-avant-gardiste aussi également. Elle est très largement influencée par d'autres arts contemporains comme le mail art, le conceptualisme, le minimalisme, le performing ou le happening. Voilà un petit peu, dans un sens un peu élargi, mais comment lui un peu situe de manière un petit peu globale et vraiment à très grand trait, hein, mais un peu comment Vincent Foucault nous dépeint ça. Ça vous parle aussi en ce sens-là, un peu les propos de Vincent Foucault?
Pour moi, parler de poésie visuelle, c'est, et je me remets au travail de Higgins, Higgins sur le concept d'intermedia art, dans lequel, dans Intermedia, dans son graphique d'Intermedia Art, était aussi l'art conceptuel, était aussi les mail art, il y avait aussi la sound poetry, et il y avait la poésie concrète et la poésie visuelle. Et aussi les happenings et la performance, disons, dans le programme général de cet art intermédia dans lequel il parlait de la fusion entre deux arts différents. Et cette idée de fusion, ça soulignait Higgins que en faisant un travail concret de de la poésie visuelle ou de mail art, ont mélangé, ont fusionné deux arts et ont s'écarté de, disons, en même temps de la, de l'art originel. C'est-à-dire, si tu travaillais avec l'écriture et les sons, par exemple, on s'écartait de la musique et on s'écartait de l'écriture.
C'est un nouvel espace qui s'ouvrait finalement, le fait de cette contraction, en tout cas de cet écart, peut-être, et du coup ça ouvre un nouveau possible.
Oui, et ça c'est les années 60-62 que Higgins écrit sur les textes intermédiaires et un peu définit un peu la différence entre les différentes matières. C'est-à-dire, c'est pas la même chose, le spatialisme que la poésie sémiotique ou la poésie procès. Il y a vraiment, il y a différentes formes de faire. Ou la poésie qu'on avait dit avant, visiva, italiana, ou la poésie concrète, comme on vient de parler. C'est disons des matières ou la cyberpoésie ou la c'est dans, si on parle de spatialisme, c'est un rapport avec avec l'espace vide que avait commencé justement Pierre Garnier, ici influencé un peu par le poète d'Autriche, le poète allemand, le poète allemand qui était vraiment près de Ilse Garnier, qui connaissait vraiment bien, et ils ont travaillé un peu cet rapport entre le mot suspendu dans l'espace, vraiment suspendu, parfois il y avait seulement un mot dans toute la page, ou deux mots, mots, et ces rapports entre l'espace et les mots écrits, c'était quelque chose, disons, à lire, mais aussi à sentir, comme une espèce de recherche dans laquelle l'espace comptait de manière assez forte. Mais si on parle, par exemple, de la poésie visuelle, c'est aussi, on a dit avant, c'est un rapport entre le mot et l'image. Mais c'était pas une copie du calligramme. Alors,
oui, c'est ça, c'était pas le calligramme non plus.
C'était pas le calligramme non plus. Et le calligramme, c'est un des éléments qui influence la poésie visuelle et la poésie concrète, mais c'était pas, disons, du calligramme. C'est-à-dire, on introduisait pas un référent réel dans la composition de poésie visuelle, mais on essayait de faire une composition, disons, plastique. C'est plus ou moins en rapport avec le, je ne sais pas si on dit plastique en France, mais...
Oui, on peut dire, oui.
Oui, on peut dire.
Tout à fait.
Et en rapport avec l'écriture, par exemple, moi, je lis Raymond Heinz chez vous. On prononce Heinz.
Heinz, oui, je pense, oui.
Disons, je le lis aussi comme un poème visuel, même si...
C'est ça, même s'il est sur le, pas, couché sur le papier, et même s'il n'y a pas une dimension visuelle.
Ah oui, et j'aime bien, et bien aussi.
C'est-à-dire, ça veut dire que c'est le rapport au police, c'est le rapport au papier, c'est le rapport au mot. Qu'est-ce qui va intervenir à ce moment-là pour vous, dans cette réaction à l'aspect finalement visuel, qui est, il y a la forme, il y a la matière, il y a l'encre, il y a plein d'éléments effectivement qui sont là.
Il y a vraiment une possibilité énorme de faire. C'est-à-dire, il y a, par exemple, des travaux avec les mots découpés, mais découpés disons, par hasard, en rapport avec, avec les idées de Fostel, de décollage, c'est l'effet de décoller comme moyen de création. Mais aussi, il y avait d'autres formes de faire vraiment différentes, comme je viens de parler, Jerzy Kollar, dans lequel il y avait un objet quotidien recouvert de petits mots, de petites lettres qui couvraient complètement et transformaient cet objet en une sculpture visuelle. Et parfois, cette sculpture était plate, on pouvait dire, c'est un poème visuel. C'est pas une sculpture visuelle.
C'est ça.
Mais aussi, le rapport entre le mot et l'image, c'était, pluriel. Il y avait aussi la poésie visuelle au Japon, dans laquelle il y avait de répétitions de l'écriture japonaise. Et parfois, on trouvait un petit changement dans l'écriture. C'est un peu comme la fille de Laura avait fait, m'avait montré ce matin, mais en japonais et avec une petite variation à l'intérieur. Et là, on disait aussi poésie visuelle, et c'était, disons, c'était visuel parce que l'écriture japonaise, c'est aussi plus visuel, mais si on était dans notre écriture, ce serait plus un poème concret.
C'est ça.
Oui. Et je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins. Hein.
Sans souci, on chemine ensemble, Bartolomé Ferrando. Mais peut-être justement pour que on vient de voilà d'expliquer un peu la démarche, on vient d'essayer d'expliquer un petit peu sur quoi se fondent finalement un petit peu toutes ces notions sur lesquelles vous travaillez. Peut-être maintenant pourrions-nous aussi faire entendre à nos auditeurs en direct aussi l'une de vos poésies justement que l'on pourrait entendre maintenant. Peut-être une première tout seul et puis peut-être on aura l'occasion, Laura Terrada est toujours à nos côtés et nous allons pouvoir converser avec elle tout prochainement, mais peut-être de vous entendre dans l'une de vos poésies, Bartolomé Ferrando.
Et moi j'ai fait maintenant des travaux, disons, improvisés avec la voix, en rapport aux gestes et disons en cherchant un peu les primitivismes, un certain primitivisme de la voix. Et oui, je pourrais faire un petit essai.
Alors, on vous écoute, alors. Oui, merci beaucoup. merci beaucoup, Bartolomé Ferrando. Ben voilà, chers auditeurs, une des facettes possibles de ce que nous venons d'évoquer avec Bartolomé Ferrando, cette poésie. Alors ça me permet aussi d'introduire à vos côtés, on l'évoquait juste à quelques instants, Laura Terrada aussi. Alors Laura Terrada, vous avez abordé le chant, vous avez travaillé la voix lyrique, mais vous aussi vous êtes d'origine espagnol. Et aussi à un moment donné, vos études en Espagne vous ont conduit à aussi être donc à cette université aussi de Valencia, où travaillait Fernando Bartolomé, et vous avez pu travailler aussi, vous avez découvert aussi son travail.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé finalement? Parce que est-ce que c'était déjà, je crois que c'est plutôt les arts plastiques dans un premier moment, qui était votre entrée.
Tout à fait.
Et puis à un moment donné, des arts plastiques croisent le travail de Fernando Bartolomé.
Oui, en fait, un peu, on peut dire c'est un peu sa faute, hein, si je suis aujourd'hui.
C'est un peu sa faute.
Parce que moi, je voulais être peintre, en fait. Hein.
Ah, c'est ça. Il y a eu détournement.
Moi,
alors.
Je voulais juste être peintre. Quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, je voulais être peintre et puis je suis sortie en étant performeuse. Donc, voilà, j'ai fait un chemin en 5 ans où j'étais dans la bidimension. J'ai passé après à l'installation. Sculpture. Et puis petit à petit je suis allée vers le corps, en fait, parce que c'était une évidence qui arrivait. Et puis à ce moment-là, on m'a dit il y a la discipline de performance Alors, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est?
Donc, je suis allée voir, et puis, effectivement, j'ai vu un monsieur qui mettait des télévisions sur sa tête, avec sa bouche qui parlait en même temps que sa propre bouche parlait, qui faisait des trucs assez incroyables avec Flatus, justement, parce que j'ai eu l'occasion d'entendre Flatus, aussi ce trio, avec Fatima et avec Jolens. Et ça a déclenché vraiment quelque chose de
fort.
Oui, j'allais vraiment dans ce sens-là. En plus, à cette époque-là, je voulais rentrer au conservatoire déjà, qui était juste à côté. Et vraiment, de bâtiment qui était à côté.
C'est ça.
Et j'étais trop vieille. Pourtant, j'avais 20 ans, hein, mais j'étais trop vieille.
Mais t'es trop vieille pour aller au conservatoire.
Trop vieille pour être au conservatoire. Déjà, à 20 ans en Espagne, c'est comme ça. Uh-huh. Donc, du coup, j'ai continué mon chemin toute seule. Et puis, c'est beaucoup plus tard après, quand je suis arrivée en France, que j'étais moins vieille. Et j'ai pu, quand même. Et j'ai pu faire le conservatoire en France à 27 ans. Donc voilà, c'est quand même
le conservatoire sur le point de vue vocal, et c'était vraiment
et voilà, le conservatoire, c'était parce que j'avais entamé déjà un travail à Bartolomé musical avec la voix et tout ça, et
là c'était la découverte avec Bartolomé, l'utilisation de la voix.
Oui, c'était vraiment avec lui. Moi j'avais déjà besoin du corps. Le corps, j'avais introduit le corps dans mon travail, mais la voix, c'était vraiment quelque chose qui me manquait, et c'était vraiment, quand j'ai rencontré Bartolomé, c'était une évidence. Et du coup voilà, après ça a continué comme ça, donc j'ai quitté la bidimension, j'ai quitté le tableau, les pinceaux, et voilà, je me suis portée à moi-même avec ma propre voix, à gauche, à droite, et puis voilà, j'ai créé un peu avec ça.
Ouais. Et on peut dire que c'est quand même un creuset assez important dans la démarche d'aujourd'hui, qu'est la vôtre.
Oui, tout à fait. Ouais.
Puisque on peut le citer, il y a eu le Conservatoire de Lyon, effectivement, dans un travail d'art lyrique, mais aussi aujourd'hui, c'est aussi beaucoup pour vous un travail d'improvisation, travail de rencontre avec des auteurs, sur les formes de la poésie aussi, dans une dimension très large, et que donc du coup, ce point d'ancrage, cette découverte, cette rencontre, au départ, elle creusait peut-être aussi de ce que vous développez aujourd'hui. Elle vous a ouvert ses possibles.
Oui, tout à fait. Après, effectivement, en France, j'ai commencé à travailler plutôt avec des auteurs de théâtre ou des poètes contemporains, donc les Rangades, beaucoup avec elles, où j'ai travaillé dans ces pièces en tant que comédienne, et donc voilà, là c'était une autre dimension encore, mais son travail textuel, c'est vraiment beaucoup dans la bouche aussi, donc ça me parlait, et j'écrivais un peu aussi déjà la musique, j'ai commencé à écrire, et donc voilà, j'ai commencé à faire un travail d'écriture aussi. Et donc Claire et puis d'autres, Penquin, d'autres auteurs, on est arrivé, poètes ou des gens qui écrivent pour le théâtre. Et après, c'est avec Alain Goudard qui est ici présent, que c'est quand même lui qui, enfin, c'est quand même toi qui m'a donné envie d'interpréter, parce que c'est quelque chose que j'avais pas encore fait, d'interpréter des œuvres d'auteurs comme Bernard Haitink. Et j'avais jamais fait. Et donc voilà, cette porte aussi s'est ouverte. Ouais. Le fait d'aller rencontrer Bernard Haitink, de parler avec lui, voir les possibilités, parce que quand même c'est toujours délicat de travailler sur des œuvres que les poètes sonnants ont écrites, mais qui sont interprétées par quelqu'un d'autre. Donc à la base,
on voit d'ailleurs que la plupart du temps, et c'est une vraie question, effectivement celle-ci, puisque la plupart du temps c'est le poète, c'est le performeur qui porte lui-même son œuvre et interprète. On a encore pas énormément de par rapport à cette période et à ces modalités de faire cette poésie debout et cette poésie d'action, que ça soit d'autres qui s'emparent de cette interprétation. On est encore par les gens qui portent eux-mêmes leur propre travail, donc c'est récent comme posture, comme donc elle suscite des interrogations qui sont tout à fait d'ailleurs essentielles, d'ailleurs
beaucoup d'interrogations, est-ce qu'on les légitime ou pas, c'est en fait, parce que l'auteur qui écrit ça, il écrit pas pour quelqu'un d'autre, la base
c'est ça.
C'est nous qui nous l'approprions après. Donc, dans quelle mesure on est capable de le faire? Pourquoi? Est-ce qu'on est fidèle à ce qu'il interprète? Ou est-ce qu'on peut aller plus loin? Enfin, pas plus loin, on peut aller ailleurs.
Ailleurs, oui, effectivement. Ou
dans quelle mesure c'est intéressant ou ça l'est pas? Pourquoi? C'est toute une question, parce que quand on écrit une musique, on sait que quelqu'un d'autre va l'interpréter. Mais quand on écrit un poème qui est pour nous, c'est vrai que c'est tas de questions qui sont intéressantes, enfin, effectivement. Et avec Bernard, on avait beaucoup discuté de ça, effectivement. Et lui, il tenait à que ça soit assez proche. Lui, il avait déjà fait. Voilà. Donc, du coup, on s'est retrouvés à interpréter ça, donc, toi et moi, donc Alain et moi. Et c'est comme ça que je suis après rentrée dans des poèmes écrits déjà par quelqu'un d'autre.
C'est ça.
Moi, dans l'improvisation, et plus dans quelque chose d'écrit qui ouvre d'autres portes, en fait.
Alors peut-être Fernando Bartolomé et Laura Tereda, je vous propose, on vient d'évoquer Bernard Haitzik, d'entendre Bernard Haitzik. Alors c'est vrai que celui-ci nous a quittés il y a 2-3 ans là maintenant, et donc on va pouvoir l'entendre dans un poème alors assez connu aussi, c'est tout un cycle, poème partition. De Bernard Haitzik et là c'est plus particulièrement donc le partition le poème partition des deux que nous allons entendre interprété par Bernard Haitzik lui-même.
Poème partition des deux. 11 poèmes sur des peintures de De Gotex. I-N-I-N-S S-T-A-N pour les T vifs morts. Fugue folle, glisse, vire des vis baseball, lisse, tabou, glisse, vire des vis volvis, lisse, fuite fluide. E, C, K, B, bou, S, S, U, sur S, stigmate, D, E, D, C, H, I, R, U, E, S, piège des sur des derniers, palafre, qui X, J, I, D, défile d'étal, défile, il ni, ni, nul, non, D, ni, j'a, rien, si, rien, nul, lance. Orgia. Lime, filament, lame. Attire, feu, plume, torche, torche. Saint-Guy, fugace. Perle, coulgouline, dégouline, coulcroule, chute, perce. Délire. Pique dans son transfouet, passe. Tendu. De parents percés, plaît, purifie, fulgurance, grira, griffrage, jaillit giclée, de au-delà de l'eau, nez, chez signe sifflant sitôt, dans les siècles des gloutis, engloutis, vallée, ava, Liga, claque des clics entre lacs. Dur, ligament, tape. Le cache, puis j'ai la bas crache. Puis j'ai la poule piège à la trace. À vif, silice, combat, ce débat. Suicide, ma zochis, exoté. Trip crince. Holocauste. cicatrice torche. Du temps sur l'espace, il présent passé. Juillet-octobre 1958.
Invention à deux voix avec Bartolomé Ferrando et Laura Tereda Martin. Nous sommes toujours dans Invention à deux voix sur Radio B. Et là, nous venons d'entendre Poème Partition des deux de Bernard Haitink. On évoquait Fernando Bartolomé. Voilà, c'est toujours émouvant de réentendre Bernard Haitink. C'est aussi un des personnages importants aussi de la poésie action en France, bien sûr, mais beaucoup plus largement.
Oui.
Vous avez eu à vous rencontrer à échanger avec Bernard Haitink?
Oui, on l'avait invité à Valencia dans l'année 82 et il avait fait là son poème Vaduz, autour de Vaduz, et avec d'autres poètes comme Spatola ou Laura Totino et Jochen Gerth, et alors on avait fait une rencontre. C'est la première fois que j'avais connu Bernard. Je le connaissais un peu par des livres, mais j'avais jamais rencontré.
Il n'y avait pas encore eu la rencontre.
Oui, la rencontre, c'était dans les années 82. Et c'était une belle occasion pour écouter quelque chose que, bon, chez nous, c'était difficile à écouter.
Certainement, mais c'est encore une toute autre manière. Il évoquait aussi, on a eu l'occasion aussi de pouvoir échanger avec lui, puis quand on lit dans certains ouvrages, aussi toute cette influence aussi, dans les débuts des années 50, on a aussi pour nous en France, c'est l'apparition du domaine musical avec Pierre Boulez, c'est aussi le début de Stockhausen aussi, c'est donc on commence à entendre des concerts de musique contemporaine et il s'y rend régulièrement, et donc sans dire que c'est quelque chose qui va influencer, mais ça va faire partie en tout cas de cette apparition aussi de cette musique d'aujourd'hui qui s'écrit, et c'est vrai quand on entend Bernard Haitink, on peut entendre la sequenza de Berio qui n'est pas encore écrite à l'époque où lui il travaille sur ses poèmes partitions. On peut aussi songer également à l'aria de John Cage aussi également. Toutes ces pièces qui sont devenues des pièces assez majeures. Mais effectivement, la poésie action, même Bernard Haitink, un certain nombre de gens le connaissent, mais c'est pas quelque chose que un grand public aussi écoute beaucoup. Donc, effectivement, il amène, sans parler d'aridité, il y a une certaine manière de comment sont présentées les choses qui oblige à rentrer dans une écoute active. Il parle de poésie action, mais en même temps, il y a, je pense aussi pour celui qui est récepteur, à être aussi dans l'état de réception active aussi de ce que peut vouloir dire aussi cette poésie. Il n'est pas que du divertissement.
Non, mais il y avait, cette poésie action, c'était une lecture avec les gestuels, avec la relation avec l'espace. Il y avait toujours cette espèce de recherche entre le mouvement avec les papiers, comment on dit, comment on récite, de quelle manière, il y avait les rythmes, comme quelque chose d'important dans la lecture.
On entend d'ailleurs dans l'extrait comment la rythmicité est importante, là aussi, la projection, la rythmicité, le rapport entre tout ça.
Oui, et il y avait en arrière, François Dufresne, il y avait aussi Hugo Ball, il y avait aussi Jandl, il y avait pas mal de gens dans la Paul Scherbart ou Christian Morgensen, il avait été en arrière dans le monde, ils avaient et développer une manière de sonoriser, si on peut dire, ce mot coupé. Mais Bernard avait ajouté un peu cet espace, disons, ces dimensions un peu, scéniques, c'est-à-dire ce rapport corps-espace, corps-voix, et aussi l'élément de gestuel avec les papiers écrits qui on n'avait jamais vu.
Comment vous percevez, on évoquait au début de cet entretien aussi que votre démarche vous emmène aux quatre coins aussi du monde. Comment percevez-vous la place de la poésie visuelle, la poésie action aujourd'hui, en Espagne bien sûr, mais peut-être déjà en Europe? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui... Parce que aussi il y a d'autres formes. Si on pense au rap, au slam, il y a plein de choses qui bougent aussi au niveau des arts du dire aussi aujourd'hui. Quelle place vous pensez qu'elle a aujourd'hui cette poésie action, poésie visuelle, poésie sonore?
C'est pas évidemment, c'est pas quelque chose trop développé en Espagne, mais je crois qu'on a des difficultés un peu partout. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais je peux dire en Espagne, je voulais devenir professeur à oui. l'université littéraire et parler de la poésie concrète, de la poésie visuelle, de la poésie sémiotique, de la poésie procès, de la poésie sonore, de la poésie phonétique. Et c'était impossible.
C'est pas possible.
C'était impossible. Et je pense que il y a des difficultés dans un peu dans le monde entier pour travailler dans une université, pour faire développer dans une université cette manière de faire. Je sais pas en France. Mais
ça me paraît aussi délicat de la même manière. Il n'y a pas non plus, je ne pense pas en tout cas, dans ceux qui aujourd'hui s'aventurent dans ce type de poésie, que ceux-ci puissent enseigner cette matière à l'heure d'aujourd'hui, aussi à l'échelon universitaire, et de dire qu'un certain nombre d'étudiants peuvent s'engager et être diplômés, ou en tout cas qu'un grand nombre d'étudiants aient accès, en tout cas, à cette forme, même s'ils ne font pas profession en la matière. Alors on a Jean-Pierre Bobillot qui lui aussi est un acteur très présent puisque lui il enseigne aussi à Grenoble et donc du coup fait beaucoup de choses pour la poésie. On citait Bernard Hetzi, qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble et il œuvre aussi. Il y a Hervé Bruno qui fait aussi beaucoup de choses. Ouais, il y a un certain nombre de personnalités, mais qui elles aussi se défendent, si je peux dire, bec et ongles finalement pour essayer de faire exister quelque chose qui a peut-être aussi du mal ou qu'on lui accorde pas suffisamment d'espace. On est dans un lieu d'ailleurs aujourd'hui, je rappelle le temps des noyaux finalement, qui aussi part d'une initiative de cette relation au dire, à la parole, aux différentes formes poétiques. Et c'est vrai que ces lieux ne sont pas si nombreux que ça, mais encore que il y a des initiatives diverses. On évoquait aussi qu'à un moment donné, un festival comme celui de l'ODEV a été balayé de la place, alors que c'était un endroit très important aussi. Donc il y a des choses qui disparaissent, il y a des choses quand même aussi qui réapparaissent parce que soit des plus jeunes, soit d'autres s'investissent par rapport dans cette démarche. Mais effectivement, ça reste une démarche qu'il faut défendre encore beaucoup aujourd'hui. C'est un peu votre sentiment ?
Oui, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait se développer de manière beaucoup plus répandue. Mais on travaille pas beaucoup dans ces domaines-là. C'est-à-dire, on reprend, disons, les manières de faire de chez nous, des années, c'est pas de la génération du 27, par exemple, c'est quelque chose d'important à les universités. 1927, mais alors c'est ce qui se passe après, c'est-à-dire, on parle de la poésie concrète à partir des années 50, avec Neugandres et Gombringer en Suisse. Et bon, on parle jamais de ça. Pour moi, c'est dommage. C'est dommage.
On sent bien qu'il y a un travail nécessaire, mais on pourrait peut-être aussi faire des parallèles. Alors, les aspects commerciaux nous rappellent souvent. On nous renvoie les 60s, on nous renvoie à plein de choses d'une certaine forme. Peut-être plus sur des côtés commerciaux que foncièrement sur le côté artistique des choses, mais effectivement il y a une nécessité de revisiter ce patrimoine des années 50, 60, dans toutes ces démarches 70 de création, qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui, mais qui peuvent être d'une très grande richesse, parce qu'ils ont été aussi porteurs de beaucoup de choses, certaines pistes pas forcément poussées jusqu'au bout de ce qu'elles pouvaient être, mais peut-être de les revisiter, en tout cas de s'approprier aussi cette histoire, et des chemins qui ont été esquissés semble aussi quelque chose d'assez important, mais qu'on saute assez à grands pas, effectivement, encore aujourd'hui.
Oui, mais dans d'autres pays aussi, c'est pas non. En Suisse, il y avait un grand poète visuel que je connaissais, Ernst Buchwalder. Mm-hmm. Et bon, j'ai demandé aux gens de la Suisse s'ils connaissaient Buchwalder, personne connaissait. Personne connaissait. Et il y avait des femmes en Italie que j'aimais bien. Mireia Bentivoglio, Giulia Nicolai, Maria Lai, Elisabeth Agut, et Giola Fazzini, qui travaillaient d'une manière impressionnante dans ce rapport entre l'image et le mot. Et Mireia Bentivoglio, ou Giulia Nicolai, qui était la femme d'Adriano Spatola. Et j'ai demandé aux étudiants en performance de l'Italie qui venaient en Espagne et non, personne
ne connaissait pas.
Mmh. Non, on fait pas la diffusion des gens de qui ont et qui quelques-uns sont encore vivants.
Bien
et
sûr.
On pourrait travailler avec elle.
Bien sûr.
Et disons, de la part de l'Italie, je pense, le travail des femmes dans la poésie visuelle, c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Giola Fazzini, elle fait du travail avec de dissémination de mots en rapport avec une image abstraite qu'on doit connaître.
Oui, il y a un gros effort de divulgation de tout ce travail qui serait complètement à accomplir aujourd'hui, en tout cas.
Oh, oui, mais je parle de la Suisse et de l'Allemagne, c'est pas de la Suisse, de l'Italie. En Allemagne, c'est pas Franz Mohn ou Tim Ulrichs, sont quelqu'un pour moi assez fort, même si Franz Mohn se définit comme un poète visuel, mais Tim Ulrichs, c'est plus dans les domaines plastique, conceptuel, et Tim Ulrichs c'est plus connu, mais pas par la voie de la poésie visuelle, ou pas par le rapport entre le mot et l'image.
Peut-être, Laura Tereda et Fernando Bartolomé, tout à l'heure on vous a entendu, peut-être qu'on pourra avoir aussi un autre petit moment improvisé à tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Volontiers.
Oui. Alors je vous laisse la parole. Vous êtes bien, chers auditeurs, sur Radio B, dans Invention à devoir, avec Fernando Bartolomé et Laura Tereda. Et là, nous venons avoir ce petit moment privilégié. Merci à vous deux. Voilà, de ce moment d'inventivité. Et on sent qu'il y a déjà il y a une histoire, qu'il y a un passé entre vous deux. Et ça, c'est fort agréable, en tout cas, à entendre. Alors, on voit bien que c'est tout un chantier, tout ça, c'est toute une aventure, un engagement aussi très important de votre part, l'engagement d'une vie aussi dans cette affaire. En même temps, vous publiez aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce travail d'action directe, mais aussi petit à petit, parce que vous êtes aussi régulièrement invité aussi à des temps de réflexion aussi sur à la fois l'histoire, comme on venait de l'évoquer, mais aussi sur les fondamentaux, les principes aussi qui qui sont là dans ce type de travail et qui correspondent aussi à la poésie visuelle. Et là, ce travail de publication est important aussi pour vous aujourd'hui, de réaliser aussi, en tout cas de passer par l'écrit, de passer par l'explication, que le livre peut être aussi une manière, comme on le disait, de contribuer à faire connaître, à faire découvrir et à faire prendre conscience aussi des enjeux de toute cette poésie visuelle.
Oui, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose, disons, pas seulement les publications comme catalogue, mais aussi la théorie, travailler sur la théorie. Et j'ai l'occasion de faire quelques livres théoriques par rapport à ça, c'est-à-dire sur l'art intermédiaire, ou par exemple, notre titre, c'est « Entre la poésie visuelle et l'art d'action ». C'était notre livre. Et oui.
Et là, vous avez des projets actuellement, justement, d'écriture ?
J'ai des projets maintenant de faire deux livres de poésie écrite et un troisième, de faire un recueil de poèmes phonétiques et sonores que j'avais fait depuis le commencement.
Donc voilà, des publications à suivre très prochainement. Quand vous parliez un petit peu de théorie, nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, mais j'ai retenu aussi tout à l'heure le mot de simplicité dans le début de notre entretien. Et quand vous en parlez, justement, comme dans certains principes théoriques importants, vous évoquez aussi sous ces mots-là simple, presque rien, c'est plus, c'est mieux. Ne pas remplir, diminuer. Image poétique, composer une image et faire une intervention dedans. Mais je trouve que cette idée de simplicité, le simple, presque rien, c'est plus, c'est mieux. Oui. Ça, c'est quelque chose de fondamental.
Oui, c'est-à-dire le point de départ, parfois, d'une performance, c'est une image poétique. J'aime bien travailler sur ces recherches parce que parfois l'image de quelqu'un d'autre t'invite à faire quelque chose, disons, pas une copie de ce qu'il a fait comme image, mais te pousse à produire une autre manière de contraster ou de faire un jeu entre le corps, l'objet, le mouvement et... Et bon, j'ai toujours aimé l'image poétique comme point de départ.
En tout cas, c'est aussi, j'imagine, quand on va travailler aussi avec des étudiants, de les amener à la simplicité et à entendre effectivement, vous dites simple, presque rien, c'est plus, c'est mieux. On peut être tellement... On parlait de vide aussi tout à l'heure, cette peur aussi de cet espace vide, et souvent l'idée du remplissage, parce que le vide peut-être fait peur ou nous angoisse, et donc du coup que trouver dans cette recherche de la simplicité, il peut y avoir tout, et que c'est peut-être là aussi où la démarche est essentielle à être conduite.
Oui, je parle aux étudiants de la simplicité, mais je n'impose pas la simplicité. Parfois, quelqu'un a besoin d'être entouré de pas mal de choses pour faire une action. Et bon, il faut laisser à chacun sa manière de faire. Je dis, pour moi, la réduction, ça donne beaucoup plus de force à la pièce, à l'action, mais je laisse de manière ouverte la possibilité de faire avec des éléments.
Partir des potentialités de chacun. Partir ou travailler à partir des potentialités de chacun.
Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, Ferrando Bartolomé, nous arrivons au terme de cette invention à deux voix. En tout cas, ce fut un grand plaisir de partager ce moment-là. Également, avec vous, Laura Tereda. J'espère en tout cas que ça va donner des envies à nos auditeurs d'aller aussi un petit peu plus loin, d'oser découvrir aussi toute cette poésie, qu'elle soit toute proche ou par le disque ou par le livre, et que voilà, c'est cette contamination qui paraît aussi importante. Alors on espère aussi que cette émission, elle contribuera à contaminer aussi un petit peu les uns et les autres.
Oui, merci. Merci à vous. C'était une grande belle occasion pour...
Mais c'est un plaisir.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, cette émission, chers auditeurs, a été réalisée avec la complicité de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez et où vous voulez, aussi longtemps que vous le souhaitez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine. www.resonancecontemporaine.org ou sur le site de Radio B www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Belle journée à vous sur Radio B.